sur le match et sur sa saison, il faut avoir le potentiel de filer presque 40 points à La Rochelle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Même s'ils ont profité des erreurs des Rochelais, il y a quand même un potentiel offensif au niveau de cette équipe de Bordeaux très très intéressant. Et quand ils font des choses bien, il faut le dire. Et là, en tout cas, c'était très bien.
Nous avons donc les félicitations pour l'Union Bordeaux-Bègles, les compliments pour Clermont et les avertissements pour le Stade Rochelais. On est bien d'accord ?
On est bon. On peut passer.
On est bon.
On peut passer.
Merci, content d'avoir participé.
Un seul Racing, par contre, non ?
C'est Racing ou La Rochelle ? C'est le Racing.
C'est le Racing.
Je demande à Antoine Mazer, il me dit tout va bien. Jusqu'au bout.
Il sera plus principal.
Non, c'est Racing.
T'as pas compris qu'il est
Clermont.
UBB. Racing Clermont UBB. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. Au moins, il y en a un qui écoute. Bravo, Antoine.
Et conseil de discipline pour Quentin Cabanis.
Oui, parce que insubordination. Dans un instant, la seconde période de Stade Toulousain face au Stade Français Paris. Puis on va faire un point sur Info. Vous êtes sur Sud Radio, il est 22h01.
Parlons vrai.
Les informations, Valentin Bonjean, bonsoir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un homme placé en garde à vue pour homicide volontaire, ça fait suite à la découverte d'un corps démembré à Paris sous le pont d'Austerlitz samedi. La victime a été retrouvée dans une valise par des pompiers qui intervenaient sur un feu de poubelle. Le suspect se serait rendu de lui-même aux autorités. Une enquête pour meurtre est en cours. Une photo qui dérange le parti présidentiel, celle de la tête de liste pour les élections européennes, Valérie Ayé. Elle a posé samedi en compagnie de militants d'extrême droite. Un cliché qui a été pris lors d'une marche qui a rassemblé des centaines de personnes proches de mouvances de l'ultra-droite à Paris. Valérie Ayé a expliqué qu'elle n'a pas eu le temps de voir les inscriptions racistes sur leur tenue. « Ce sont des méthodes indignes, celles de l'extrême droite que je condamne de toutes mes forces », a-t-elle martelé. Coup d'envoi ce lundi de la 7e édition du sommet Choose France. Le gouvernement réunit 180 chefs d'entreprise étrangers au château de Versailles pour les convaincre d'investir dans l'Hexagone. Le relais de la flamme olympique poursuit son parcours après les Bouches-du-Rhône. Ce dimanche, le flambeau va arriver en Occitanie. Il est attendu à Montpellier à 7 demain. Les relayeurs de la flamme olympique devraient également franchir le viaduc de Millau, le plus haut pont routier du monde. En parallèle, ce sont 23 actions visant à perturber le relais de la flamme olympique qui auraient été déjouées, l'annonce de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur son compte X. Il a salué la préparation et la grande vigilance de tous les agents des forces de l'ordre. Consécration pour la série dédiée à Bernard Tapie à la cérémonie des BAFTA. Au Royaume-Uni, elle a remporté la récompense de la meilleure série étrangère. La mini-série, le biopic du célèbre homme d'affaires, a coiffé au poteau des poids lourds du petit écran. Elle était en concurrence avec notamment The Last of Us et Succession. Et puis un mot de football féminin pour finir, puisqu'on connaît l'affiche de la finale des playoffs de D1 Arkema. Les Lyonnaises ont décroché leur ticket pour les finales après leur masterclass contre Reims ce dimanche. Score final 6-0. Elles affronteront les féminines du PSG vendredi prochain. C'est tout pour l'essentiel de l'actu. Très bonne soirée à tous.
Sud Radio, la radio du rugby. Le top 14, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby en plein classique du rugby français entre le Stade Toulousain et le Stade Français Paris. On vient de faire le conseil de classe sur Sud Radio de cette 23e journée. Avertissement au Racing, compliments à Clermont et félicitations à cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. On est avec David Gérard, Rémi Messagui et vous au 0826 300 300. Avant de revenir directement dans la partie, on voulait aussi revenir sur un moment fort du week-end. C'est la déclaration du week-end, c'est le son du week-end. C'est Léo Colli en colère après la défaite de Montpellier à Castres. Au micro de Rémi Messeguet, écoutez, c'était un temps fort de ce week-end de rugby sur Sud Radio.
C'est l'ego qui doit parler, c'est la fierté. Hein. À un moment donné, quand tout vient dit, t'arrives la tête à l'envers parce que t'as perdu tous les week-ends, oui, il y en a plein le cul. C'est dur à dire, c'est dur à vivre aussi. Mais voilà, c'est là qu'on va se ressouder, qu'on va puiser les qualités individuelles de chacun, qualité mentale, qualité physique, et on va essayer de chercher tout ce qui peut nous amener vers le haut, on va essayer de le chercher.
C'est la déclat du week-end. Rémi Messeguet, tu étais aux premières loges à quelques centimètres de lui pour récolter cette réaction. Là, il a parlé avec le cœur, Léo Colli. Hein.
Ah oui, très clairement. Après, pour donner un petit peu ce qu'il y a derrière cette déclaration, c'est-à-dire que Léo Colli, il vient en conférence de presse, on lui pose des questions un petit peu basiques sur la rencontre, parce qu'on le rappelle, les Montpelliérains, ils auraient très bien pu mériter de s'imposer à Castres hier. Et puis, petit à petit, on sent poindre un petit peu d'énervement du côté de Léo Colli. Et puis, il y a une question sur le barrage, puis une deuxième. Et à la deuxième, là, Léo Colli, on sent que il a besoin de lâcher des choses et il lâche cette déclaration, voilà, que, comme quoi, ben, il y en a marre d'arriver tous les lundis. Je répéterai pas les mots parce que il y a peut-être des enfants qui nous écoutent avant de dormir le dimanche soir, avant de reprendre l'école demain après un week-end prolongé. Donc voilà, c'est, on sent quand même que c'est un joueur qui a du caractère. Bernard Laporte, dans la semaine chez nos confrères de Midi Libre, a dit qu'il manquait de leader dans cette équipe. Peut-être qu'ils n'ont pas ciblé les bonnes personnes pour être leader.
Ah, il a aussi dit que la personne qui avait monté cette équipe était un escroc.
Oui, mais ça c'est encore autre chose. Il y a eu des déclarations. De toute façon, l'interview elle est lunaire. L'interview dans le Midi Libre, elle est lunaire.
Elle est même scandaleuse, honnêtement. Parce que dire ça d'une équipe qui était championne il y a un an et demi, bon, quand même, faut doser, non, quoi.
Après, c'est vrai que le staff actuel a récupéré une situation complexe.
Oui, mais il savait que la situation était comme ça quand ils sont arrivés.
Dur à remonter. Après, c'est un challenge, comme tout. À partir du moment où il a accepté, il est relevé. Les tenants et les aboutissants sont connus. Maintenant, il faut assumer. Il faut assumer du côté de Montpellier de faire
personne
une saison.
Personne n'a mis un flingue sur la tombe pour reprendre le club. Hein, tu vois,
Non, maintenant, il faut trouver des solutions.
En attendant, c'est reparti à Ernest Vallon, coup d'envoi donné par les Toulousains pour cette deuxième mi-temps. C'est reparti avec les joueurs du Stade Français dans leurs 22 mètres, refoulés par la défense toulousaine. Brad Weber, un petit peu sous pression, va servir Joris Segond chassé par Paul Graou, qui va laisser le ballon dans le terrain, non, sauvé par Thomas Ramos, et un ballon pour Juan Cruz Malia. Malia qui a peut-être un bon ballon de relance, tentative de crochet de Juan Cruz Malia, il passe par le sol. Le débrayage toulousain est efficient avec maintenant la passe de Graou pour Aldeguerri, un petit peu dans le dos là, de Dorian Aldeguerri, mais les Toulousains de retour en possession du ballon sur la ligne médiane, et la défense du Stade Français qui continue de monter fort, de plaquer aux jambes. Thomas Ramos, le jeu dans le dos pour Pitaki, il n'y a pas de décalage, donc il va servir Matisse Castro Ferreira d'un petit ballon après contact, et Paul Graou qui va partir au ras. Paul Graou presque poussé par Richie Arnold, passe par le sol. Est-ce que ce ballon a été gratté par les joueurs du Stade Français? Non, Willis qui relève maintenant au ras du rec, il est repoussé. Jack Willis, les contacts sont rudes pour l'instant. Marchand, la Chistera pour Roumat, le jeu dans le dos pour Malia pour Ramos, et là il y a peut-être un décalage avec Pitaki qui va pousser au pied. Cette fois-ci c'est bien fait, ce jeu au pied de Pitaki qui va enfermer Joris Segond, notamment là-bas. Joris Segond, est-ce qu'il va être poussé en touche? Non, mais bien défendu par les Toulousains. Si, ce sera une touche. Kylian Amdaoui a été poussé en touche avec le ballon, et ce sera donc une touche pour les Toulousains, il me semble. On va voir de quel côté tend le bras monsieur l'arbitre de touche. Alors je ne vois pas, oui, il tend le bras côté toulousain, et là on a l'exemple, David, d'un jeu au pied efficient de la part de Pitaki. On disait que Joris Segond se débarrassait trop du ballon. Là Pitaki, il a balancé ce coup de pied dans l'angle mort entre les 5 mètres et l'embut, et il a obligé les joueurs du Stade Français à concéder la touche.
Oui, c'est vrai que ce jeu au pied de Pitaki est en pression, en fait. Il a été tapé dans la profondeur du terrain, et c'est ça la différence avec les jeux au pied du Stade Français, qui rendent les ballons en permanence, qui tapent direct en touche, et ceux du Stade Toulousain qui sont faits pour mettre la pression et récupérer des ballons.
Et là, le lancer pour Julien Marchand, les Toulousains qui veulent démarrer cette rencontre, cette deuxième mi-temps, sur, un petit peu sur le même rythme que ce qu'ils ont fait lors de la première, avec un ballon, un essai dans les 22 mètres, ballon écarté par Paul Graou pour Pitaki. Pitaki qui va jouer dans le dos pour Malia. Malia l'a sauté pour Ramos. Et là, ça peut se jouer à la course, le duel avec Lebel. Lebel qui va jouer son duel face à Kylian Amdaoui. Repris par l'arrière parisien, Graou qui va devoir réorganiser avec cette fois-ci Jack Willis. Sollicité Jack Willis qui casse un plaquage qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Maintenant, les Toulousains qui sont de nouveau pressants sur cette ligne parisienne. Cyril Baye qui n'a pas réussi à sortir les bras. Cyril Baye passe par le sol avec Graou. Graou qui écarte pour Malia. Malia la passe de plus pour Ramos, la sautée, l'essai de Pitaki. Ces Toulousains sont d'un pragmatisme fou. Trois ballons quasiment dans les 22 mètres adverses. Trois essais, David.
Ouais, les Toulousains qui entament cette seconde mi-temps comme ils ont mené la première. On ne va pas dire à plein feu, mais voilà, dans le contrôle, avec de la qualité. Un ballon de récupération avec de la pression à 5 mètres de la ligne. Un ballon porté qui se met en place. Pas trop d'efficacité. Jeu de mouvement. Et des Parisiens qui sont très serrés et qui libèrent l'espace dans le coup. Couloir des 15 mètres, et des Toulousains qui profitent de ce décalage pour envoyer Pitaki à l'essai.
des Toulousains qui sont parfaitement revenus du vestiaire et qui mènent désormais 25-13 avant la transformation. Difficile en coin pour Thomas Ramos et cet essai de Pitaaki. Pitaaki qui lui aussi commence à marquer des essais, son quatrième cette saison. Pitaaki en top 14, son huitième toute compétition confondue. Il en a inscrit 3 aussi en Champions Cup. Si Pitaaki, l'homme à tout bien faire dans l'ombre, commence à marquer des essais aussi régulièrement, on va se demander qu'est-ce qui peut arrêter ce Stade Toulousain.
Ben, pas grand-chose en tout cas sur pas grand-chose en tout cas au vu de pour l'instant de ce match. Et même si le Stade Français était vraiment pas très loin à la mi-temps, il n'y avait que 7 points d'écart, ben, de suite ils ont pris le bouillon sur ces 4-5 premières minutes de la seconde mi-temps avec une leçon de pragmatisme.
Et la transformation qui va passer entre les poteaux. Le pragmatisme est total. Thomas Ramos, il a fallu un coup de pied pour se régler derrière Ernest Vallon. Et désormais, le Stade Toulousain mène 27-13. C'est le premier vrai écart de cette rencontre.
Le premier vrai écart, mais il est existant cet écart. Et il permet aux Toulousains de prendre le dessus sur le Stade Français, qui va devoir prendre des risques, qui va devoir peut-être jouer à contre-nature, envoyer un peu plus de jeu et peut-être faire bouger un peu plus le ballon que depuis le début du match.
Et surtout le Stade Français, il va falloir se méfier de ne pas trop prendre l'averse, parce qu'on rappelle le banc toulousain qui est aussi stratosphérique, sincèrement on va le rappeler: Peato Movaca, Rodrigue Netti, Emmanuel Merafou, François Cross, Antoine Dupont, Cetare Kibitouniata, Dimitri Delib, David Aïnou. Attention, parce qu'on sait que tous ces joueurs vont entrer autour de l'heure de jeu. Si le Stade Français est trop loin à abandonner dans la tête, ça peut aussi faire un peu cher à l'arrivée.
Ouais, un peu cher, donc il faut vite resserrer les rangs du côté du Stade Français qui récupère une pénalité, qui donne une pénalité facile aux Toulousains, qui leur a permis de revenir dans le camp de Paris.
Et parce qu'elle était facile, cette pénalité, mais la pénale touche trouvée, elle n'était pas forcément simple à trouver. Les Toulousains d'une pénalité dans leurs 22 mètres. La touche, elle est trouvée à 30 mètres de la ligne du Stade Français. Magnifique jeu au pied une nouvelle fois. Et donc un nouveau ballon d'attaque pour Julien Marchand au lancer, ses coéquipiers. Julien Marchand, le capitaine ce soir de cette équipe toulousaine, qui va lancer. Richie Arnold sollicité, premier sauteur. Le ballon, il est cafouillé, mais contrôlé, par Jack Willis. Et Paul Graou qui va pouvoir lancer une nouvelle animation avec Roumat. Roumat qui va charger cette fois-ci dans l'axe du terrain avec Graou qui va remettre un petit peu d'organisation, de rythme. Cyril Baye qui conserve cette fois-ci à la charge. Cyril Baye, il a posé un genou à terre, c'est un plaquage complété. Graou sous pression, il n'y a rien là sur Paul Graou. Si, hors jeu, le joueur est arrivé sur le côté. Et là, le choix des Toulousains, il va être intéressant, parce que cette pénalité, elle est 30 mètres face au poteau, David. Et s'ils prennent la pénale touche, ça montre certaines intentions. On le rappelle, les Toulousains qui mènent 3 essais à 1, à un essai du bonus offensif.
Oui, qui mènent de 14 points. Maintenant, on va faire le choix, ou le contrôle du match en prenant ces 3 points. Ou c'est plus sur le contrôle, en fait. C'est la victoire avant tout et éloigner le Stade Français. Parce que depuis le début du match, c'était pas un chassé croisé, mais à chaque fois le Stade Français revenait à une longueur, à un essai. Là, en prenant ces 30 points, si jamais ça passe, c'est 17 points. Il faut deux marques bonifiées pour le Stade Français, donc voire plus pour revenir dans le match.
Et c'est Lucas Peyrès-Blanc qui est sanctionné sur cette action, parce qu'il était plaqueur sur Cyril Baye, alors que Cyril Baye a posé le genou à terre. Et il
dit.
Alors que M. Ramos a annoncé plaquage, il a arraché le ballon, et on sait que c'est pas autorisé à partir du moment où le plaquage est annoncé.
Au global, le match de second, quand même, je regarde, hein, je suis désolé, je regarde un peu trop le match de second probablement, mais très compliqué. Hein. Je le trouve complètement à côté de la plaque.
Il est très compliqué. Bon. C'est vrai que son jeu au pied. Mais je te dirais qu'il est à côté, je le trouve un peu à côté de la plaque depuis sa signature à Bayonne.
Oui.
Il n'a plus d'impact qu'il avait avant.
Et la pénalité de Thomas Ramos, vous l'entendez, à l'effusion du stade Ernest Vallon, est passée. Entre les poteaux, c'est désormais une avance de 17 points pour le Stade Toulousain, 30-13, et effectivement Joris Seon. Et en plus cette année, il a quand même une concurrence accrue avec Zach Henry, qui est là aussi, qui peut-être dans la tête lui pose problème. Alors en plus avec la signature à Bayonne, Joris Segond, il a un petit peu plus de mal à terminer la saison.
Ouais, c'est vrai qu'il a un peu plus de mal. Par contre, magnifique prise de balle de Lebel, liftée par Barassi. Hein. Alors c'est
tous les joueurs savent tout faire.
Ouais, c'est comme le Seven en fait. Ils font des blocs de deux où les trois quarts se liftent entre eux. Et ça leur permet, sur une magnifique prise de balle de Lebel, d'avoir une sortie de camp propre avec un tunnel mis en place pour Graou.
Avec justement Paul Graou qui va taper. Il ne va pas taper en touche. Il va y avoir duel à la retombée. Capté par Alexandre Roumat et ballon récupéré par les Toussaint. En avant commis par Alexandre Roumat sur le plaquage d'un joueur du Stade français.
C'est rare hein, ça.
Mais on a l'impression qu'il joue un peu facile, Alexandre Roumat, ce soir.
Ouais, deux en avant de sa part, c'est un des, je pense, le joueur le plus habile qu'il y a dans l'effectif. Il a une capacité quand même, ballon en main, être extraordinaire. Là, au niveau de l'aérien, il fait quelque chose d'énorme. Hein. Il monte sur le ballon de Graou qui tape. C'est lui qui va le chercher et qui récupère le ballon. Et derrière ça, il fait un en avant parce que les défenseurs lui mettent la pression sur le haut du corps.
Et alors qu'il y a eu des changements hein, côté parisien, je vois Georgi Melikidze qui est entré, Gigi Van Der Mecht aussi. Gigi Van Der Mecht, on attend de voir sa rencontre avec Emmanuel Merfou hein, quand même ce soir. Ça peut être un duel assez intéressant quand Emmanuel Merfou va faire son entrée. Qui est-ce qui a fait son entrée aussi? On a coaché, il me semble. J'ai vu trois joueurs sortir et Rory Cocotte est entré à la place de Brad Weber.
Le héros. Voilà. Le héros, hein, parce que Rory Cocotte est très aimé ici à Toulouse. Hein.
Oui. Le formateur d'Antoine Dupont.
Non, c'est vrai.
C'est pour ça.
Il est très aimé à une heure de Toulouse en tout cas.
Ah oui, à Castres, il est plus qu'aimé même. Mais par contre, c'est hallucinant de le voir là. Hein. C'est extraordinaire ce qu'il fait quand même.
37 ans.
37 ans, j'arrête ma carrière. Ah bon, finalement, je reprends. Et en plus, il joue en top 14 et puis il en a fait des matchs. Hein.
Oui, Rory Cocotte est là. Par contre, la nouvelle première ligne du Stade français avec Melikidze, notamment le côté droit Melikidze, Van Der Mecht. Ils ont emporté tout le monde là. Ils ont emporté toute la mêlée toulousaine et donc pénalité pour le Stade français. Et là, le choix de Joris Segond, par contre, ça va être la pénale touche. Et on va répondre à ce coaching côté toulousain avec les entrées de Movaca, Netti et un joueur qui est remplaçant, c'est François Cross. Ce soir, il a très bonne touche trouvée à 5 mètres par Joris Segond. Peut-être un lancer intéressant pour les Parisiens.
Et c'est vrai que là il y a le banc XXL du stade qui commence à rentrer. Movaca, Netti, Cross, ça fait du lourd. Maintenant il va falloir bien défendre sa ligne pour les Toulousains parce que le Stade français a trouvé cette pénale touche et on laissait quand même très bon sur ballon porté. Les Toulousains sont pas restés avec des gros défenseurs, mais il va falloir trouver des ressources pour défendre la ligne du côté toulousain et surtout aux Parisiens de marquer pour revenir dans le match parce que le match n'est pas terminé. Il faut vite marquer pour Paris.
Cross pour Castro Ferreira, Netti pour Baye et Movaca pour Marchand. Voilà les changements toulousains, la combinaison parisienne et la mauvaise passe de Peyrès Blanc pour Van Der Mecht et ballon récupéré par les Toulousains, une interception sur cette passe de Peyrès Blanc, c'était un petit peu téléphoné, les Toulousains avaient sûrement déjà lu cette combinaison à la vidéo parce qu'on a vu qu'ils sont montés à 3 sur Van Der Mecht et il me semble que c'est Pitaaki qui a réussi à intercepter, mais là Paul Graou, le pied gauche pas forcément très efficient, il ne sort pas ce ballon et ballon de relance pour Kylian Hamdaoui.
Hamdaoui qui relance et toujours ce jeu pour l'instant très direct du Stade français amené par Gabriel et ils ont du mal à gagner les collisions. Le Stade français, ils sont obligés de mettre énormément de joueurs dans toute phase de ruck pour garder les ballons, mais c'est vrai que c'est assez complexe.
Et le ballon toujours à disposition avec Van Der Mecht justement sollicité, plaqué par Movaca aux jambes Gigi Van Der Mecht. Et Rory Cocotte qui va de nouveau demander à ses avants de partir au ras avec notamment son capitaine Gabriel Melikidze dorénavant qui relève. Et le ballon toujours à disposition des Parisiens. On est à une quinzaine de mètres de la ligne. Toujours hein, avec un jeu à zéro passe ou une passe. Et il y aura une pénalité. Ballon récupéré par les Toulousains pour un grattage. Pour un grattage toulousain. Voilà, les Parisiens, c'est Jack Willis qui allait mettre ses mains sur ce ballon. Et ce sont les Toulousains qui récupèrent une bonne pénalité dans leurs 22 mètres. Là, ces Parisiens n'y arrivent pas.
il n'y arrive pas et c'est vrai qu'il manque de continuité dans le jeu. À force de jouer très direct, il se fatigue aussi. Les soutiens sont en retard et ils se mettent au supplice des gratteurs toulousains. Alors Marchand étant sorti, c'est Willis qui prend le relais. François Cross aussi qui vient de rentrer va être un danger aussi pour tous ces ballons-là. Il va falloir que les Stade français trouve des ressources quand même.
Oui, ce Stade français qui en plus est premier avant cette journée de top 14, était premier avant cette rencontre, qui laisserait son fauteuil de leader aux Toulousains en cas de défaite. Et les Toulousains qui eux ont tout intérêt à aller gagner, parce que la semaine prochaine il y a un déplacement à Montpellier, et après ce déplacement à Montpellier il y a une finale de Champions Cup à aller disputer à Londres face au Leinster. Et il est vrai que si les Toulousains venaient à s'imposer ce soir avec ou sans bonus, ils feraient un très grand pas vers la demi-finale et pourraient préparer pendant deux semaines la finale de Champions Cup.
Ouais, c'est vrai que ça laissera du temps, et surtout le Stade Toulousain qui joue les deux compétitions à fond sera en pleine confiance, en pleine bourre, parce que même avec une équipe hybride, hein, c'est pas une équipe B du tout, c'est une équipe hybride avec des titulaires et des remplaçants un petit peu mélangés, ben, ils montrent à un moment donné qu'ils ont la capacité d'enchaîner les matchs de très haut niveau, et même si ce soir c'est pas un match grandiose, ça reste un match correct.
Ça reste un match correct qui pourrait être sublimé par un éventuel essai qui donnerait le bonus offensif à ces Toulousains à l'heure actuelle. On le rappelle, ils mènent 3 essais à 1. Pour l'instant, ce sont les Parisiens qui ont le ballon et qui sont récompensés par M. Ramos pour une pénalité. Mais c'est vrai que les Parisiens, ils parcourent le terrain en large, mais toujours à une passe.
Ouais, toujours une passe. Je pense que stratégiquement, c'est ce qu'ils ont voulu mettre en place. Prise de risque minimale. Pas perdre les ballons au contact. Mais voilà, ça reste quand même, pour moi, trop direct et pas assez imaginatif pour mettre en danger la défense du Stade, qui est plutôt bon sur ce format-là.
Alors qu'il y a un international de rugby à 7 qui va faire son entrée sur la pelouse d'Ernest Vallon. Alors, c'est pas Antoine Dupont, désolé pour les auditeurs qui ont cru, c'est Andy Thimault qui va connaître sa première en top 14. Andy Thimault, un des cadres de l'équipe de France à 7 qui devrait normalement participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France, et qui va faire son entrée à la place de Romain Briat en troisième ligne. Andy Thimault, il peut dépanner aussi derrière hein, avec ses qualités de vitesse. Andy Thimault est donc lancé à suivre pour les Parisiens dans les 22 mètres suite à cette pénalité pour Lucas Pérez Blanc. Le lancer capté par le capitaine Paul Gabriel, et le ballon porté, enclenché par les joueurs du Stade français. Pour l'instant bien défendu, premier arrêt indiqué par Monsieur Ramos. Et le ballon qui va devoir être sorti par Rory Cocotte, qui a les mains sur le ballon. Rory Cocotte, ballon sorti pour Boudehan, premier attaquant sollicité, qui va avancer, Paul Boudehan. Et Rory Cocotte, il va une nouvelle fois organiser autour de ses avants, et Didier Van Der Mech notamment, le grattage toulousain. Est-ce qu'il va être récompensé par Monsieur Ramos? Non, c'est Rory Cocotte qui a toujours le ballon à disposition à 15 mètres de la ligne. Nouvelle charge, Melikidze cette fois, Jack Willis qui va tenter de gratter. Non, indique M. Ramos, il lui demande de repartir. Second, la passe de plus. Et la défense toulousaine qui est bien montée. Rory Cocotte, une nouvelle fois, qui anime. Oula, c'est un peu le désordre. Et là, peut-être que le désordre, il va sourire aux Toulousains. Le ballon poussé au pied. Et ça va se jouer à la course. Oh, Dakouaka, il a des cannes énormes avec le rebond. Est-ce qu'il va sourire à un jeu Capozzo, le rebond? Lester Etienne qui perd ce ballon à la course. Thomas Ramos. Et laissé en contre toulousain. Laissé en contre toulousain. Mais l'erreur de Lester Etienne. Il a voulu sauver une touche. Il jette le ballon dans le terrain. Interception de Jacques Capozzo. Et après
la magie.
Après la magie.
Il me sort un jeu au pied rasant dans le dos du dernier défenseur du Stade français qui a ouvert la porte de l'essai à Ramos. Alors là aussi, il récupère ce ballon, il intercepte le ballon d'Etienne. Etienne, voulant sauver la touche, jette le ballon sur le terrain, tombe dans les mains de Capozzo, mais qui est pris de suite. Et là,
il arrive à descendre les mains.
Mais super vite, rasant, magnifiquement donné. Dans la longueur et dans la profondeur du terrain. Rémi, comme il David, passe comme un joueur de foot en fait.
C'est Malia hein, qui intercepte.
C'est Malia qui intercepte.
Ah, pardon, ouais. Excuse-moi, c'est Malia.
Mais ouais. Parce qu'en fait, Capozzo plaque Lester Etienne.
Et c'est Malia qui intercepte et qui fait ce coup de pied, ce coup de pied à suivre derrière.
On se rend compte,
Maradona, hein.
On se rend compte aussi la capacité des joueurs toulousains à être à pleine vitesse, hein, parce que ça veut dire qu'il y a Malia, Capozzo, Ramos, et le jeu au pied il est de Grau à la base. C'est même pas un de ces trois qui a tapé. Donc ça veut dire que les trois, enfin, c'est hallucinant. Et la capacité à maintenir le sprint, parce que par contre Dakuwaka, il a fait aussi un sprint et finalement c'est lui qui a intercepté. Mais Lester Etienne a trop vouloir sauver cette touche, il aurait mieux fait de la concéder à 30 mètres.
Ah, c'est vrai qu'il aurait dû simplement pousser le ballon en touche, et à vouloir à un moment donné prendre ce risque-là, ben, c'est retombé dans les mains de Malia qui a eu cette inspiration, hein, ce petit coup de génie avec ce rasant qui permet aux Toulousains non seulement d'accentuer le score, mais de surtout prendre un
bonus offensif virtuel.
Oui.
Alors que la transformation n'est pas passée pour Thomas Ramos, on en reste à 35-13 et il y a encore du coaching. Bitouniata est entré à la place de Lebel. Dimitri Delib entre à la place de Pitaaki. Et le dernier changement, c'est David Aïnou qui entre à la place de Dorian Aldeguerri. Côté parisien, Abel Kufner et Castet sortent, remplacés par Julien Horry. Et qu'est-ce qui est entré à la place de Clément Castet? C'est donc Mamoudou Maïté. Voilà pour tout le coaching, ça y est, on y est dans ce coaching. Et on va dire David qui
Il est passé.
Oh, il est passé. Et l'essai de Lester Etienne, incroyable, qui vient surprendre tout le stade Ernest Vallon. Qui est-ce qui est passé sur cette action? Il me semble que c'est Joris Segond. Et bien voilà, il suffisait qu'on dise qu'il faisait un match moyen. Et bien là, Joris Segond, il vient percer la défense toulousaine qui s'est un petit peu oubliée sur ce coup-là. Servir Lester Etienne sur un 2 contre 1 d'école. Et Lester Etienne qui va aplatir cet essai, qui va désormais priver les Toulousains de bonus offensif virtuel. Joris Segond, oui, une relance propre, un intervalle créé. On s'est complètement oublié là sur la montée Ramos. Défensive. Non, mais on n'a pas serré. François Cross aussi, un petit peu.
Meilleur défensif, c'est Ramos.
Ramos se fait manger par une fin de passe, mais François Cross n'est pas soutien intérieur.
Il est dur à reprendre parce que Ramos est en face de Joris Segond et il se fait vraiment bananer.
La fin de passe.
Du verbe bananer, hein, parce que ça existe. Sur cette fin de passe du facteur de Joris Segond.
Et ça fait 35 à 18 désormais avant la transformation de Joris Segond après cet essai de Lester Etienne.
Très bon Lester Etienne d'habitude en plus.
Oui.
Là il a fait une bêtise, il a fait une faute terrible, mais voilà, c'est un garçon de qualité, hein, qui était très bon quand il était à Massy d'ailleurs.
Et la transformation est ratée par Joris Segond.
Mais ça enlève le bonus offensif aux Toulousains.
C'est ça. Ça enlève ce bonus offensif aux Toulousains. Alors il reste encore beaucoup de temps. Il reste 22 minutes à jouer si vous nous rejoignez sur Sud Radio, la radio du rugby. Le Stade français vient de marquer un essai par l'intermédiaire de Lester Etienne. Et le Stade français n'est mené plus que, si on peut se permettre, 35 à 18. Le coup de pied de renvoi de Juan Cruz Malia, réceptionné par le Stade français. Et les Parisiens qui vont pouvoir organiser un petit train pour Rory Cocotte. Rory Cocotte qui va pouvoir dégager son camp. Est-ce qu'il va laisser le ballon dans le terrain? Oui. Pied gauche, Rory Cocotte dans les bras de Thomas Ramos. Un peu long ce jeu au pied de Cocotte. Et Thomas Ramos qui va peut-être avoir une solution. Il est tombé sur Van der Mecht. Et il y aura même un bon grattage parisien. Vite joué cette fois-ci par Lucas Pérez-Blanc. Lucas Pérez-Blanc plaqué par Paul Graou qui n'était pas à 10 mètres. Et 10 mètres gagnés par les Parisiens. Petit temps faible côté toulousain.
Petit temps faible, et même si l'essai du contre est arrivé il y a quelques minutes, pour l'instant c'est les Parisiens qui remettent la main sur le ballon avec le même style, la même stratégie. Et on a vu de toute façon cette bataille des rucks. Et je le répète, mais je trouve que l'arbitrage de M. Ramos est très bon parce qu'il permet à un moment donné de mettre la clarté sur toutes les choses. Parce que là aussi il y a une phase de ruck, beau plaquage de Van der Merch, de suite un grattage parisien, pénalité donnée à Paris. Blanc la joue rapidement, Graou n'est pas à 10, de suite pris, je trouve très clair dans ce qu'il fait et très propre.
Et le gros jeu au pied de Joris Segond permet aux Parisiens d'obtenir un lancer pour Pérez Blanc à quasiment 5 mètres de la ligne d'en but. Le lancer capté par Andy Timo. Il est monté haut là, Andy Timo, sur ce lift. Le ballon porté enclenché par les joueurs du Stade Français.
Ils sont bloqués encore.
Bien défendu par les Toulousains. Le ballon porté qui est phagocyté là, avec maintenant Boudin sollicité par Henri Cocotte. Et grattage toulousain de Jack Willis une nouvelle fois. Monsieur Ramos qui va donner une mêlée au Stade Toulousain après ce ballon récupéré par Jack Willis. Quel travail de l'Anglais dans les rucks.
Ouais, Jack Willis, monstrueux de combat, très bon en Coupe d'Europe. Et là on voit cette action avec Boudéan qui fait un crochet intérieur et qui est le premier, l'Anglais Jack Willis, qui attaque de suite le ballon et qui, par la force de ses bras, a réussi à le récupérer. Un match encore plus que correct de la part de l'international anglais.
Avec l'entrée d'Emmanuel Meafou qui remplace Thibaut Flamand. Là on est dans du coaching pur et dur. Et ça veut dire, si je ne dis pas de bêtises, qu'il ne reste plus qu'une personne sur le banc toulousain. Et c'est Antoine Dupont. C'est dire les Toulousains qui ont vidé le banc, mais il reste un joueur, c'est Antoine Dupont, qui va entrer sûrement un petit peu plus tard dans la rencontre. Et Lucas Peyrès-Blanc fait sa sortie, remplacé par Mamoudou Maïté. Et les Parisiens qui ont donc une première ligne toute neuve, totalement neuve, tout comme les Toulousains. Là, ça va être intéressant parce que justement, le rapport de force, il y a un nouveau rapport de force qui s'enclenche.
Oui, il va falloir trouver maintenant des solutions, en tout cas. Des solutions, pourquoi ? Parce que les Parisiens, ils sont encore loin du compte, ils doivent vite revenir. Mais pour ça, ils vont faire appel à leur banc. Et même si leur banc est beaucoup moins expérimenté que celui des Toulousains, il peut avoir quand même un rebond de fraîcheur. De toute façon, il va falloir tenter le tout pour le Stade Français.
Oui, et cette mêlée à suivre, on met du temps à se mettre en mêlée à chaque fois. Et là, monsieur Ramos. Alors, peut-être s'il fallait retrouver quelque chose à redire sur son arbitrage, c'est on met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais après, c'est aussi parce que les premières lignes et la mêlée ne font pas forcément les efforts, parce qu'il doit leur donner les consignes. Il donne les consignes en avant-match, monsieur Ramos. Et là, on attend encore de se mettre en mêlée. Introduction pour le Graou à suivre avec ce ballon pour les Toulousains. Ils sont à 5 mètres de la ligne, les Toulousains. Et cette introduction à venir pour Paul Graou. Ballon introduit. La mêlée s'écroule, mais le ballon est disponible. Que dit monsieur Ramos ? Rien. Mêlée écroulée. On va refaire une nouvelle fois une phase de mêlée. C'est un petit peu long là quand même. C'est un temps mort. C'est un temps mort dans cette rencontre.
Un gros temps mort. Ouais. Un gros temps mort et à faire des micro-siestes là. Parce que le temps qui se remettent. Après c'est le propre aussi des nouvelles premières lignes. Hein. Et, souvent les nouvelles premières lignes ont tendance à se tester. Il y a passé au sol, c'est un petit peu ce qui se passe. Avec un manque de rythme en tout cas sur les 5-6 dernières minutes, il va falloir. Renvoyer du jeu pour le Stade Français rapidement, mais pour ça, faire confiance aux nouvelles premières lignes. On va dire, il y a des garçons de qualité avec Alo Emile, avec Meïté, avec le pilier droit, Milikidze.
Face à cette première ligne toulousaine, Movacan et Tiaïnou. Et les Toulousains, allez, ce ballon à introduire pour Paul Graou à 10 mètres de sa propre ligne. C'est une mêlée défensive là pour le Stade Toulousain. Paul Graou à l'introduction, c'est une mêlée puissante côté toulousain, que va dire monsieur Ramos. Pénalité obtenue par le gaucher, il me semble que c'est le gaucher toulousain qui a pris le dessus là sur cette action.
Ouais, alors il siffle la position du pilier du Stade Français qui est complètement en travers, qui a fait tourner la mêlée. Mais voilà, après on sait pas vraiment qui a subi. Mais par contre, intentionnellement, le Stade Français a tourné la mêlée devant les yeux de M. Ramos qui les a pénalisés.
Et la pénale touche trouvée par Juan Cruz Malia. Alors que côté Stade Français, on vide également le banc. Sortie de Joris Segond, remplacé par Léo Barré. Là aussi, il y a du beau monde sur le banc du Stade Français. Et notamment Léo Barré, sorti de Joris Segond, qui aura été correct face aux perches, aura offert un essai à l'Esther Etienne, mais après dans l'animation aujourd'hui aura été un petit peu gêné par l'animation demandée. et la défense toulousaine.
Ouais, c'est vrai qu'il a, même dans le, c'était pas un jeu très offensif pour lui, pour pouvoir se montrer, il a pratiquement pas touché de ballon d'ailleurs en attaque.
Et là il y a une nouvelle pénalité contre Andy Timo, qui a voulu gratter ce ballon, mais il a attaqué le sol, indique M. Ramos, les deux mains au sol. Et donc Andy Timo sanctionné. Les Toulousains qui vont pouvoir, grâce à deux pénalités, revenir dans le camp du Stade français par l'intermédiaire du pied de Juan Cruz Malia et peut-être le Stade Ernest Vallon qui va se réveiller avec cette touche à venir à l'entrée des 22 mètres. La touche à venir lancée Peato Movaca. On l'a vu en difficulté, Peato Movaca, sur son premier lancé. Il a du mal à trouver ses sauteurs.
Après, on l'a dit, à partir du moment où ils vont ralentir la touche, les Toulousains, ils vont être en danger. Pourquoi ? Parce que le Stade français a plutôt un bon contre avec des garçons très athlétiques qui montent vite. Donc il va falloir que les Toulousains remettent du rythme pour avoir des ballons de qualité sur le lancement direct.
Le lancer, Movaca avec le fond de touche pour François Cross, pas droit. Pas droit du tout ce lancer de Peato Movaca. Ouais, et Peato Movaca, là, il est dans un mauvais jour au lancer. On le sait, hein, ça lui arrive parfois, c'est peut-être encore ce qui fait qu'il doit se régler. Il y a un petit peu d'inconstance dans ses lancers. Il y a des jours où 100% tout arrive. Et là, aujourd'hui, on est sur un premier lancer où il ne trouve pas son sauteur. Et là, un lancer pas droit.
Un deuxième lancer pas droit, c'est là où, bien sûr, dans l'expérience, Movaca a encore à apprendre. Alors, pour vous dire qu'il n'est pas à 100% de son potentiel. Mais voilà, ça reste quand même un excellent joueur. Par contre, ballon important récupéré par le Stade français qui commence un petit peu, en tout cas sur les deux dernières touches, à poser des problèmes positionnels déjà aux Toulousains. Il va falloir continuer en ce sens-là, mais surtout prendre des risques maintenant. 15 minutes à jouer pour le Stade français et il y a 17 points à remonter.
Je t'ai laissé faire les calculs parce que.
Mais non, mais parce que je vois mal en fait.
35-18. 35-18, effectivement. Il y a 17 points à remonter pour. Les Parisiens et 17 points effectivement à un quart d'heure. Il va falloir marquer vite, voire très vite pour les Parisiens. Et si le Stade Ernest Vallon applaudit, c'est parce qu'Antoine Dupont a fini son échauffement et va sûrement faire son entrée en jeu. Un petit quart d'heure pour Antoine Dupont ce soir. Il va sûrement entrer à la place de Paul Graou, quoique. Hein. Quoique, il peut aussi entrer à la place de Juan Cruz Malia. On le sait. Hugo Mola l'a fait jouer en 10 cette saison. Et la mêlée, d'abord à suivre, introduction Rory Cocotte pour les Parisiens à l'entrée de leur 22 mètres. Rory Cocotte, la mêlée, cette fois-ci elle s'effondre une nouvelle fois. Monsieur Ramos dit à Rory Cocotte de la jouer. Et Léo Barré va taper loin devant. Thomas Ramos est en couverture, le rebond le trompe presque, mais Thomas Ramos assure et va taper un long jeu au pied dans les bras de Kylian Hamdaoui. Et une très bonne touche trouvée par Thomas Ramos depuis ses 22 mètres sur la ligne des 40 mètres. Même plus, il continue de marcher, monsieur l'arbitre, il ne s'arrête pas. Monsieur l'arbitre de touche. Et ça fait une touche trouvée par Thomas Ramos. Magnifique.
Ouais, elle est monstrueuse. Il a trouvé une touche à 35 mètres de la ligne d'essai des Parisiens, qui est vraiment énorme.
Après, le ballon est peut-être sorti un petit peu avant hein, quand même, parce que Kylian Hamdaoui l'a ramassé quasiment dans les tribunes, donc avec l'angle du ballon. On va juste attendre qu'un joueur parisien se fasse soigner. Il me semble que c'est Melikidze qui reste au sol, il a un genou à terre, Melikidze. Et donc ça fait une nouvelle fois un temps mort. Et c'est vrai que pour l'instant les Toulousains sont visiblement assez contents de cette victoire, et les Parisiens n'ont pas l'air d'avoir envie de se révolter.
Il va falloir trouver des solutions pour les Parisiens, mais il va falloir envoyer du jeu, surtout avoir des ballons de qualité, ils en ont, mais maintenant il faut changer de stratégie. Il y a une prise de risque à avoir pour au moins revenir avec un point d'ici dernier ballon. Pour ça, il va falloir rapidement marquer. Et les Toulousains qui sont dans le contrôle, en fait, il n'y a pas de prise de risque. Et est-ce qu'ils ont besoin de faire un match monumental ce soir? Non, pas forcément besoin.
Ils auront peut-être besoin d'un essai en plus.
Ils auront besoin d'un essai en plus s'ils veulent le bonus.
Oui, et là, Melikidze, il reste énormément au sol pour le moment. Georgi Melikidze, c'est quand même relativement. Je ne sais pas si c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'il a, Georgi Melikidze? C'est au niveau du coude. Oh, là, pour les prises en mêlée, ça ne va pas être.
Le coude quand t'es plié, c'est primordial, hein, effectivement.
Ah oui, mais là, comme il l'a touché, ça a le même avant-bras que Rory Cocotte.
Ouais, surtout que c'est, c'est le coup d'intérieur pour lui puisqu'il est pilier droit.
Ah oui, ben, ils ont mis tellement de strop qu'il a le bras de Rory Cocotte.
Donc il va avoir le coup autour du talonneur là. Alors, ça va être compliqué quand même.
Ouais.
Ah, les pieds droits, pardon. Ah oui, donc c'est, ouais, le, droit, c'est le bras donc, gauche. Ouais,
il va
c'est
se lier à l'intérieur avec son talonneur.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et là, il y a un ballon porté, enclenché par les Parisiens. Défendu, mais Afou, il est passé au milieu. Je ne sais pas comment il fait, mais Afou, en étant aussi costaud pour réussir à aller se glisser entre ses adversaires sur les ballons portés, il a complètement annulé le ballon porté. Finalement, Rory Cocotte, tout en expérience, s'en est sorti, mais Afou, impressionnant.
Alors, je ne sais pas si glisser est le mot. Je pense qu'il détruit, en fait. Parce que là, il a détruit. Il trouve des espaces là où il n'y en a pas, en fait. Il est tellement costaud qu'il arrive à passer les bras. Il a fallu que Rory Cocotte prenne la balle et lui-même essaye de remettre de l'avancée, ce qui a été assez complexe.
Avec donc Rory Cocotte pris dans le regroupement, donc c'est Léo Barré qui a fait le jeu au pied sur Bitou Niata.
Et c'est gratté, ça.
Gratté par Melikidze. Bon grattage là de Melikidze. Ben, finalement, le coude va bien. Le coude a l'air d'aller bien. Et pénalité pour le Stade français à 50 mètres. Coup,
il avait peut-être pris une petite décharge, tu sais, ça peut arriver ça.
Ouais, décharge sur le nerf. Un coup sur le nerf. Ouais.
C'est pas de bien.
C'est assez intéressant ce droitier, Stade français qui est rentré.
Moi, j'adore.
Il est très intéressant.
J'adore.
La touche trouvée par Léo Barré.
Le fan, t'as entendu ? J'adore.
Mais il est pas roumain. Il peut pas être roumain.
Non, pas du tout. Non.
Il aurait. S'il avait été s'il avait été roumain, David, ça t'aurait arrangé.
Il fait partie de l'usine qu'il y a dans l'est, là, tu sais, de l'Europe. L'usine à pilier, là. Comment elle s'appelle ?
La Géorgie, bien sûr.
C'est son prénom.
Et c'est le 118e pilier qui joue en France, qui est géorgien. J'en peux plus.
Le problème, c'est que.
Il faut savoir que normalement.
Ils font autre chose.
D'ailleurs, on le dit mal. On le dit mal. Normalement, on doit dire Géorgie. Parce que le G. Ouais, on dit, c'est Georgi normalement, c'est Georgi, parce que G-I normalement on dit G en géorgien. Voilà, vous savez. C'est bien.
Merci Antoine pour l'intervention.
Quand
Antoine,
je
il veut me faire plaisir ce soir, mais,
pour dire
mais
ça
il y arrive.
C'est Antoine Mazeridze.
Mazeridze.
L'expert S-géorgien.
Pierre Tournevitzé, on a tout de suite.
Tu connais cette histoire extraordinaire, David ?
Elle est folle.
À une époque où Brive a énormément de géorgiens. En plein multiplex, Brive a énormément de Georgiens et François Trio commente un match de Brive. Et il y a, rentre sur le terrain, Pierre Tournebise, qui s'écrit Tourne B-I-Z-E. Oui. Et du coup, à l'antenne, ça donnait Pierre Tournebise.
Ça ressemble pas du tout à un Georgien.
Ouais, Pierre Tournebise. Ah oui, il y a un petit fou rire là. Ah ouais, Tournebise.
Moi j'en connais un qui va chercher du boulot bientôt. Ouais. Je suis pas de nom, mais il y en a un qui va chercher du boulot.
Et en attendant, le jeu se poursuit et les Toulousains, Paul Graou a voulu se soigner la sortie de camp, plaquer la Rory Cocotte d'Akouaka qu'on a peu vu ce soir à récupérer le ballon haut. Là, Melikidze, il vient de nous servir une passe au pied derrière la jambe d'appui. C'est magnifique ce qu'ils nous offrent. Ils n'ont pas que des piliers, ils ont aussi une belle équipe de foot, les Géorgiens, qui joueront l'Euro cet été. Avec Willy Sagnol. Willy Sagnol, le sélectionneur, et aussi Kvaratskhelia, le joueur de Naples.
Et qui est aussi au Paris Saint-Germain.
Se poursuit.
Pour remplacer Mbappé. Le PSG qui, comme le Stade français, perd contre Paris en ce moment. D'ailleurs.
Contre Toulouse.
Perd contre Toulouse.
Le PSG perd contre Paris, ça va être compliqué.
Ouais, c'est carton bleu, Quentin.
Oui. Ah,
enfin, on s'est compris, quoi.
Non, c'est carton bleu.
Oui, mais on s'est quand même compris. Toulouse mène 2-1 au Parc des Princes.
Voilà, sale soirée pour les Parisiens face aux Toulousains pour l'instant.
C'est ce qu'on peut
dire, oui, parce que alors autant sur le Stade Toulousain, je suis relativement
ça va
quasiment sûr qu'ils vont s'imposer, mais après le Toulouse Football Club dans les arrêts de jeu, ça c'est encore une autre affaire. Voilà, c'était le moment, mais le Toulouse Football Club est capable de mener 2-1 à la 89e et perdre 3-2 à la 90+3, donc on verra le résultat ce soir. En attendant, les Toulousains ici à Ernest Vallon, le Stade Toulousain a besoin d'un bonus offensif, mésentente entre Léo Barré et Dakouaka, alors que Malia n'avait pas forcément trouvé une touche intéressante, il avait raté son coup de pied, mais ça donne un lancer à 5 mètres de la ligne parisienne, et là, il est peut-être là le ballon de bonus offensif à la 72e. Antoine Dupont est toujours sur le banc. et le emmenez-moi classique de la 72e retentit à Ernest Vallon. Lancé à suivre pour Peato Movaca, pour les Toulousains qui peuvent aller chercher un bonus offensif. Richie Arnold sollicité la combinaison avec Movaca qui va se lancer. Movaca stoppé à 1 mètre de la ligne. L'animation qui va se poursuivre avec le ballon relevé par Aïnou. Aïnou qui va pousser pour aplatir, stoppé à quelques centimètres. Willis maintenant qui veut se récompenser de son match, repoussé également. Jack Willis et les Toulousains à proximité de cette ligne pour un bonus offensif qui les enverrait quasiment, on dit bien quasiment, en demi-finale. Si jamais ils venaient à s'imposer ce soir avec le bonus offensif, ils auraient 7 points d'avance sur la 3ème place. La passe de plus pour Roumat, lui aussi repoussé, il y a de l'espace sur l'extérieur. Là-bas, la défense parisienne est complètement resserrée, mais l'attaque toulousaine aussi. Nouveau départ au ras de Movaca, stoppé. Andy Timo va essayer de gratter ce ballon, non, il est repoussé autour de Meafou à 5 mètres. Meafou renversé, Meafou qui n'a pas marqué encore. Graoul a sauté, Roumat la passe volée par Assi. Non, monsieur Ramos considère qu'il y a un en avant. Ce sera une mêlée. Eh oui, Alexandre Roumat, c'est une passe volée, mais à la base c'est un ballon non contrôlé.
Après, il y a eu quand même une défense héroïque du Stade Français sur leur ligne. Défendre autant de temps de jeu face au Stade Toulousain proche de sa ligne, sachant qu'ils ont des gros porteurs, le Stade Toulousain, que Merfou est rentré, qui a Netti, qui a Willis, qui a des garçons qui avancent en permanence. Voilà, c'est pas une main à faire. Preuve quand même que le Stade Français n'est pas là par hasard. Et même s'ils subissent en tout cas le scénario du match pour l'instant. Voilà, ils ont prouvé des belles choses.
Mais est-ce que le Stade Toulousain ne s'est pas trompé justement à chaque fois qu'ils ont marqué, les Toulousains, c'est en écartant le ballon et il y avait un espace immense sur l'extérieur. La pénalité qui va être jouée à la main avec Netti. Le retour intérieur pour Meafou qui va marquer. Emmanuel Meafou sur une pénalité rapidement jouée à 5 mètres. Emmanuel Meafou qui tombe dans le but et qui va inscrire son 4e essai de la saison en top 14. Toulouse récupère un bonus offensif virtuel, David.
Ouais, cette pénalité magiquement jouée à la main. Alors magiquement pourquoi? Parce que dans la créativité, depuis le début de l'année, on en a vu plusieurs du Stade Toulousain, des pénalités jouées à la main. Mais à fou souvent la finition, mais c'est jamais la même en fait.
Ouais, c'est jamais
là,
au
c'est
même
une
endroit.
Pure créativité où les Toulousains ont déplacé des blocs et ils ont mimé en fait un bloc de 3 qui venait à agresser la ligne, à se mettre de la ligne. Et Meafou qui était un petit peu caché malgré son gabarit et les sorti à l'intérieur de Netti en fait. C'est vraiment une capacité à se faire des passes très proches de la défense et à y faire des choix très propres.
Et malgré tout, ça fait 40 points. Marqué à une des meilleures défenses du championnat. 40 points inscrits par les Toulousains.
C'est impressionnant.
Ça fait beaucoup. Et surtout, ça fait deux matchs d'affilée que le Stade Français encaisse 40 points. À Clermont.
C'est vrai. Clermont
et à Toulouse. Clairement, il y avait eu 41-18. Là, il y a 40-18. À l'heure actuelle, la transformation avec Thomas Ramos.
C'est pas fini.
42-18 pour le Stade Toulousain qui reste malgré tout sous la menace d'un essai parisien qui lui enlèverait un éventuel bonus offensif. Mais effectivement, ce match est encore loin d'être fini. Il reste plus de 5 minutes, David.
Ouais, c'est vrai que ce 42-18, il commence à faire lourd dans la balance. Preuve à mon nom de la différence entre les deux équipes ce soir, en tout cas, avec un Stade Français qui avait laissé des cadres un petit peu au repos, qui avait fait tourner, on peut le dire, et une équipe hybride toulousaine qui est plutôt bien en place, parce que c'est des garçons qui risquent de jouer pour beaucoup la finale de la Coupe d'Europe face au Leinster.
Oui, et j'ai l'impression qu'Antoine Dupont va subir subir, c'est un bien grand mot, mais va vivre la vie d'un remplaçant d'Antoine Dupont.
Non, mais je pense qu'il va pas rentrer.
Non, je pense pas non plus. Il reste 5 minutes à jouer. C'était sûrement vu avec lui, Antoine Dupont. Paul Graou fait un très bon match dans l'animation. Il a marqué un essai aussi ce soir, lui. Alors, c'est à signaler, Paul Graou a marqué son premier essai de la saison contre une équipe autre que Oyonnax. Parce qu'il avait mis 6 essais, 6 contre Oyonnax.
Il est comme ça.
Un quadruplé, un doublé. Et là, c'est son premier essai de la saison contre une autre équipe qu'Oyonnax. Le Stade Français qui est resté sur 5 victoires consécutives face au Stade Toulousain. Sur 5 matchs sans défaite face au Stade Toulousain, il y a un match nul. Va s'incliner cette fois. Et les Toulousains vont continuer une série de 36 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues à domicile. Alors que là, il y a Lester Etienne qui essaye de se démener. Ballon récupéré par notamment Ange Capozzo qui se débat. Non, c'est pas Ange Capozzo, le jeu qui se poursuit avec Ramos. Ramos pour Graou. Graou l'a redoublé avec Malia. C'est magnifique. Le ballon va de main en main. Bitugnata qui remet de l'avancée. Bitugnata qui entre dans les 22 mètres. Bitugnata stoppé. Graou maintenant. Graou avec Netti. Netti. Oh là, les appuis de Rodrigue Netti. On croirait jamais dire ça, mais Rodrigue Netti, là, il a passé un appui sur la passe. Il est sorti extérieur. Jack Willis, le jeu dans le dos. Avec maintenant la passe de plus pour Thomas Ramos. Thomas Ramos qui va casser un de plaquage. Il est stoppé à 5 mètres de la ligne. Thomas Ramos avec le soutien de ses partenaires. Paul Graou a le ballon à disposition. Et les Toulousains se font de plus en plus pressants. Est-ce qu'il y a un petit côté à jouer? Non, il écarte grand côté avec Roumat pour Arnaud. Ah là 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 là, c'est dommage que c'était bien joué de la part des Toulousains. Et Arnold a peut-être, avec la fatigue, a eu du mal à relever le ballon en été.
C'est vrai que dans le jeu de mouvement de la continuité, on a vu vraiment un modèle là de jeu d'avant avec des passes avec Arnold. Mais oui, pénalité à suivre pour les Toulousains. Monsieur Ramos qui siffle le Stade français qui avait retardé la sortie de balle, sentant qu'il prenait un petit peu l'eau.
Et ça va être joué à la main encore.
Ouais,
alors on peut voir, attention, hein, peut-être une nouvelle invention ou peut-être du plus classique. Hein. C'est Movaca qui va jouer ce ballon à la main. Non, il se décale avec cette fois-ci, mais Afou sollicitant premier attaquant. Mais Afou stoppé à 50 cm de la ligne. Graou, la passe, elle est un peu basse cette passe, mais elle est contrôlée par Malia. Graou, est-ce qu'il y a un décalage là? Toute l'attaque toulousaine est resserrée. Tentative de contre-rug d'Andy Timo. Ballon relevé pour Meafou. Est-ce qu'il est tombé? Oui, essai. Essai d'Emmanuel Meafou. Le doublé. Et Hugo Mola peut avoir le sourire dans les écrans géants. Ça fait désormais 52 à 18 pour le Stade toulousain face au Stade français. Et sûrement 54 vu que l'essai est entre les poteaux, mais se met à fou et inarrêtable à 1 mètre de la ligne.
54 inarrêtable, 49, on l'a vu pas. 49, non, il y a un problème 49, de mathématiques 49, là. 49.
Après, ouais, il s'est emballé peut-être.
Non, mais il m'a fait des raisonnements plus tard. Parce que je suis en train de froncer les yeux.
Et quelle couleur le carton, Clément? Parce que depuis tout à l'heure, tu l'attends pour lui mettre le carton bleu là. Je pense que tu peux lui mettre.
Hein. Non.
Non, mais il l'a déjà mis.
Ah ouais, mais,
non, mais je pense qu'il m'a fait une commotion, Rémi, les gars. Rémi m'a fait une commotion.
Oula!
Qu'est-ce qui se passe? Qu'ils sont en train de regarder l'essai ou qu'ils laissent passer le temps?
Non, ils laissent passer le temps, Thomas Ramos.
Ils appellent les médecins pour la commotion. Ils ont pété le bouclier du but. Là.
Ouais, ils ont cassé la protection du poteau, effectivement.
Ouais.
Ouais. C'est Emmanuel Meafou qui casse même les poteaux. Voilà.
Ouais.
C'est pour dire. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de finir la rencontre avec une protection cassée. Il reste
non,
de toute façon, mais
quand on regarde le score, et
donc Dupont ne sera pas rentré.
Que 40...
Non. Dupont ne sera pas rentré. Dupont a vécu la vie d'un remplaçant d'Antoine Dupont.
Non, mais quand on pense qu'on voit ce score-là
transformé, hein, 51-18,
et que les Toulousains ont eu que 44% de possession sur le match.
Ouais.
Le Stade français qui était la meilleure défense de ce championnat a encaissé quasiment 100 points de match.
Ouais, mais là, il faut se poser des questions offensivement déjà du côté de.
Alors que la sirène retentit, et là le choix des Toulousains, qu'est-ce qu'il va être de mettre le ballon en touche. Terminé. Fin de l'euphorie pour le Stade toulousain. Petit échauffouré malgré tout avec Richie Arnold. Mais victoire avec bonus offensif du Stade toulousain qui prend 7 points d'avance sur la 3ème place. Et c'est peut-être ça l'enseignement, David, ce point de bonus. Il doit faire du bien aux têtes. En tout cas, le déplacement à Montpellier la semaine prochaine, relativement tranquille.
Alors, je pense que on s'attendait à peut-être dans la compo avoir des surprises là avec une équipe plus qu'hybride du côté toulousain, en se disant est-ce qu'ils vont aligner une équipe B, est-ce qu'ils vont vraiment mettre beaucoup de joueurs au repos. Je pense que maintenant, au vu du score, c'est surtout la semaine prochaine où ils risquent de faire des choix drastiques au niveau de l'effectif pour ne pas prendre de risques avec certains joueurs. Après, sachant que Dupont n'a pas joué ce soir, la question c'est est-ce qu'ils vont le mettre sur le terrain la semaine prochaine.
Bah oui.
Tu vois, non, mais ils vont se poser des questions, mais voilà, quel genre d'équipe ils vont faire à Montpellier. Ouais.
Ouais. Donc, je peux déjà vous dire, je pense que Paul Coste sera titulaire au centre.
Oui, il va avoir certainement des retours aux blessures. peut-être un garçon comme Delib va un peu plus jouer, va avoir le poste de numéro 10 qui va être aligné. Voilà, il y a des questions qui vont être amenées à se poser. Mais bon,
alors, il y a des questions, mais les joueurs, il y a des joueurs qui ont donné des réponses là à Hugo Mola, David Gérard quand même. Julien Marchand, il a repris le flambeau de titulaire. Je pense qu'il a quand même pas mal mis d'accord. Juan Cruz Malia en 10. Pas de problème.
Ouais, Malia, pas de problème. Malia, mais en 10.
Moi, il y en a un qui m'a marqué aussi ce soir dans son travail de l'ombre. Il a été remplacé par un autre joueur de l'ombre, c'est François Cross. Matisse Castro Ferreira, il a fait un sacré match. Hein.
Ouais, il a été assez intéressant.
Ah oui,
il a été assez
attention,
hein,
Matisse Castro Ferreira, c'est 19 ans.
Oui, bien sûr. Après, c'est un excellent joueur. Maintenant, les Toulousains, oui, il va falloir se poser des questions sur l'effectif. Et puis, quand on voit que déjà Rétière était en groupe là, tu te dis, bon voilà, il va falloir faire des choix drastiques pour la suite.
Impressionnant quand même. Ouais. Une équipe qui fait tourner, mais qui est quand même très, très, très solide. Quoi. Franchement, pour s'asseoir à la table du Stade Toulousain, quand même.
C'est ce qu'on disait sur la première mi-temps la semaine passée face au Harlequins. Quelle équipe en top 14 peut faire trembler le Stade Toulousain lorsqu'il joue comme il a joué la première mi-temps face au Harlequins? Et quand on voit ce soir, en jouant relativement lentement,
oui, ils n'ont pas
forcé les Toulousains ce soir. Ils mettent 50 points. Alors je vois 49 dans l'écran géant. L'équipe de Nafou a été transformée par Ramos.
Bah, 42 plus 7, ça fait 49. Ah, encore 42, des problèmes de maths.
Il était temps que ça se termine cette affaire.
Et Rémi.
Parce que sinon,
moi je dis plus rien, je subis là. Je subis.
Rémi. Rémi, est-ce que.
Rémi, tu veux une bonne nouvelle également
pour les Toulousains?
Soirée
de commotionné.
C'est soirée parfaite pour les supporters toulousains puisque.
Victoire 3 au Parc des Princes, c'est ça.
Le TEF vient de marquer un troisième but.
Ouais. Encore un très bon pronostic de ma part au passage.
C'est Magri qui marque le troisième but.
Il y a eu un numéro sur le côté droit toulousain.
Ça va finir chez tonton cette histoire.
Oui. Non. Je n'ai pas la même capacité en soirée qu'Antoine Mazer. Donc un dimanche soir après un match, c'est une tisane et au lit.
Ah. Oh. C'est une tristesse.
Allez donc. Ça se perd.
Non mais parce qu'il est encore jeune Antoine Mazer.
Ah bah c'est oui,
ça, il est très jeune. Il est bleu. Encore, il est encore mieux.
En tout cas,
c'est Toulousain 49, Stade Français Paris 18. Juste un dernier petit mot là quand même sur cette partie. J'avais posé la question en préambule. Est-ce que on a la sensation d'avoir un avant-goût d'une potentielle finale de top 14 après coup? Est-ce que vous avez eu la sensation d'une potentielle finale de top 14, David Gérard?
Bah non.
Non, si c'est si, oui, si une finale de top 14 comme ça, ça à 49-18,
ça fait peur. Hein. Si c'est le résultat de la prochaine finale de top 14, je prends peur sur le championnat français quand même. Hein. Je me pose des questions.
Après,
c'est un mauvais signal pour le championnat français.
Là, c'est un signal qu'il faut se remettre au boulot pour tout le monde et qu'à un moment donné, pour atteindre le très haut niveau de notre top 14 maintenant, ben, il faut pousser la machine parce qu'il ben, y a un client. Quoi. Il y a un client.
Bah ouais, mais attends, le Stade français a fait tourner quand même.
Oui, ils ont fait tourner parce que ce que je disais à Rémi, c'est que s'il y a un endroit où tu peux te permettre des fois de tourner, c'est ici. Parce que tu sais que même si tu envoies l'intégralité de ton effectif, hormis si vraiment tu es dans une dynamique de dingue, c'est toujours complexe de prendre des points ici. Et je pense que le Stade français n'a pas voulu sortir toutes ses armes et même dans la créativité, ils n'ont rien fait en fait. Ça a été très direct, il n'y a pas eu une passe. Je suis sûr que le Stade français n'a pas envoyé l'intégralité de son effectif parce qu'il n'a pas voulu montrer. Et voilà, ils nous ont montré que
pour donner un ordre d'idée,
en fait, ce soir.
Les passes chez les trois quarts, hein. Etienne 3 passes, Boudou en 3 passes, Joe Marchant 0, Dakouaka 0, Amdaoui 2.
Weber dépasse voilà. À tout le monde.
Voilà, non,
c'est Weber qui a fait toutes les passes. Mais c'est vrai que, comme tu disais, David, prendre des points ici, il n'y a qu'une équipe qui l'a fait, c'est Pau et qui a pris un bonus défensif cette saison. Sinon, le Stade Toulousain, le Stade Toulousain à domicile.
Comment ils ont pris le bonus défensif pour qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué à outrance.
Ils
jouent à outrance. Donc, si à un moment donné tu veux prendre des points, il faut jouer.
Et c'est le 37e match sans défaite, toute compétition confondue, du Stade Toulousain.
Impressionnant.
À domicile, il y a un match nul face au Stade français dans la série et sinon 36 victoires désormais. Et la dernière équipe à avoir battu le Stade toulousain en top 14, c'est le Stade français. Mais la série
continue. La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. Merci beaucoup David Gérard, merci beaucoup Rémi Mességuet. Les réactions dans le grand matin de Patrick Rouget demain et dans le journal de Laurie Leclerc sur Sud Radio. Très belle soirée à vous deux, belle fin de soirée dans la cité toulousaine, et c'est toujours un immense plaisir de passer nos dimanches soirs avec vous deux. On est avec Quentin Cavénis, avec Clément Combes, avec Antoine Mazer. On va récapituler tous les résultats, Quentin avec les bonus, et on va faire un point sur le classement, parce que il y avait une vérité avant cette 23e journée. Est-elle une nouvelle vérité? Est-ce qu'elle a changé à l'issue de cette 23e journée?
En tout cas, le leader a changé, ça c'est une certitude. Les résultats de cette 23e journée avec la victoire de Clermont à Perpignan 35-28, le succès de Castres face au MHR 27-26, Pau a battu Oyonnax 39-17 avec le bonus offensif, Bayonne s'est imposé au Racing sur la pelouse d'Auxerre 37-28, Toulon a battu Lyon 30-24, l'UBB a pris le bonus offensif contre La Rochelle 34-14 et Toulouse vient donc de prendre le bonus offensif face au Stade Français 49-18. Au classement, du coup, le Stade Français prend la place de leader avec 3 points d'avance sur le Stade Français. Ensuite, on va retrouver l'UBB, le RCT, le Racing 92 et le Stade Rochelet pour le top 6. Suivent la section paloise, le Castres Olympique, l'USAP, Clermont, Bayonne, le Loup 12e avec 47 points. Ensuite, le MHR 13e, 40 points et Oyonnax dernier, 30 points.
Quentin, le nombre de points, entre le Stade Français Paris et La Rochelle?
3 points. Entre le Stade Français Paris et...
Entre le Stade Toulousain et La Rochelle,
Le Stade Toulousain et La Rochelle. 70 points pour le Stade Toulousain, 56 pour le Stade Rochelet, donc 14 points d'écart. Donc, c'est pas encore fait pour le Stade Toulousain. Ils sont pas encore officiellement qualifiés.
On est très très proche. C'est pas encore officiel. Tout à fait, on est à un point d'écart. Mais bon, a priori, ça va y aller. On s'est régalé ce week-end, vraiment, vendredi, samedi, dimanche. Ça va continuer la semaine prochaine avec la dernière journée de Pro D2. On vous prépare un magnifique dispositif avec le top 14 aussi. C'est Sud Radio, c'est la radio du rugby. C'est toujours un grand plaisir de passer nos week-ends avec vous.